Et on revient sur le projet de faire labelliser les enclos paroissiaux du Finistère Nord au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Après vous avoir expliqué en quoi ces enclos sont exceptionnels et peuvent prétendre à ce titre, Vincent Granic, qui s'est vu confier cette mission par le conseil départemental, nous explique au micro de Jean Causeur le travail immense qu'il va devoir accomplir.
Alors l'origine du projet ou de cette candidature, l'initiative est assez récente en fait, elle a été prise ou reprise au début de l'année par le président du conseil départemental, en fait, qui a eu le souhait, après discussion, échange, effectivement, de lancer ce projet de candidature. Alors déjà, il y avait eu auparavant, il en avait connaissance, je pense, deux initiatives, je pense, dans les années 90 pour l'une et au début des années 2000 pour l'autre, si mes souvenirs sont bons. Des candidatures qui n'avaient pas été, ou des tentatives qui n'avaient pas été jusqu'au bout pour plein de raisons. Et donc ça voulait dire qu'en fait la question d'envisager ce patrimoine en particulier comme étant susceptible de recevoir un label comme celui-là, il y avait déjà eu des gens qui avaient pu l'imaginer, le penser, l'estimer, que voilà, ça méritait potentiellement cette labellisation. Donc là, c'est effectivement une initiative maintenant du conseil départemental, apparemment c'était d'autres collectivités. Donc du coup on est sur une échelle de l'ensemble du département. Et effectivement il se trouve que dans le Finistère, principalement on va dire, de manière concentrée dans le pays de Morlaix, dans le pays de l'Andivisio, on a ces enclos qui sont fortement présents. Et pourquoi est-ce qu'il serait susceptible d'être effectivement labellisé au patrimoine mondial ? Par la richesse des décors, par l'importance effectivement qu'ils peuvent représenter d'un point de vue architectural, patrimonial, artistique. On pourra rentrer peut-être dans le détail de ce qu'ils sont et de quelle époque ils représentent, mais disons qu'il y a cette concentration particulière dans une zone un peu spécifique, précisément donc dans plutôt la partie nord du département, de ces éléments patrimoniaux en fait. Alors il se trouve qu'on peut en trouver des éléments un petit peu ailleurs dans le département et au-delà dans d'autres départements, mais c'est la concentration véritablement dans le Nord Finistère qui en fait une particularité et vraisemblablement un élément de richesse.
On parle de combien d'enclos dans le Finistère ?
Alors, certains ouvrages très très généralistes disent qu'on peut aller jusqu'à 50, 60 enclos, mais dans ce qui peut être comptabilisé, on peut ne pas avoir la totalité des éléments, c'est-à-dire le mur complètement, la clôture complètement fermée, l'ossuaire, le calvaire, le porche sud, etc. Et puis il peut y avoir eu des églises qui ont été en partie reconstruites ou réaménagées au 19e, ou des choses qui ont disparu ou qui n'ont pas été existantes. Voilà. Donc en fait, dans cette liste extrêmement importante, en fait, nous, ce qu'on va essayer de déterminer, en fait, c'est une liste où on aura une forme d'une bonne intégrité. C'est-à-dire, c'est ce qui intéresse l'UNESCO, en fait. C'est-à-dire que si on va les voir en candidatant pour, en ayant, voilà, on a un bien particulier qui représente telle époque, dans lequel il y a tels éléments, etc., il faut qu'on détermine des critères et que la liste des enclos paroissiaux ou des églises avec qui figureraient sur la liste de candidature répondent vraiment bien à tous les critères qu'on aura déterminés, aussi bien dans la composition que effectivement dans la représentation de quelque chose. C'est-à-dire que si on dit que les enclos ils sont nés d'influence artistique, d'une richesse de sculpture, il faut que on rassemble les sites qui ont vraiment tous les éléments. Et donc là, peut-être qu'on va baisser une liste qui ne comportera, je ne sais pas encore, parce qu'elle n'est pas du tout, elle est en cours la réflexion est en cours. peut-être 20, peut-être 25, peut-être 15 seulement, c'est pour avoir vraiment peut-être un peu plus. Je ne sais rien du tout, hein, mais vraisemblablement, il y aura, en tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de sites qui, pour différentes raisons, parce que bon, voilà, il y a des éléments qui ont disparu, parce qu'ils ont été reconstruits, et que du coup, l'intégrité chronologique, si je puis dire, elle est plus là, en fait. Donc, ils ne pourront pas faire partie de la liste principale de candidature. Mais ce qui pourrait être intéressant, et c'est ça la volonté aussi du conseil départemental et de son président, en fait, c'est que la démarche puisse... si elle aboutit, et même si elle aboutit, c'est pas finalement, mais en tout cas que la démarche, elle puisse bénéficier à plus largement que la liste principale des sites qui composeront la candidature officielle et finale.
Ça, donc les critères de l'UNESCO, c'est autant avoir un lieu comment dire, symbolique et représentatif d'une période, mais pas que... par son esthétisme, qui est par sa singularité, mais aussi par tout ce qui l'entoure, son passif, tout ce qui représente d'une époque, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est la enfin, en tout cas, l'UNESCO va s'intéresser à ce qu'on va appeler l'intégrité et la bonne conservation. Et puis après, il va y avoir aussi l'intégration dans un environnement. Mais en fait, il va aussi regarder l'objet de la candidature. C'est-à-dire que si l'objet de la candidature, c'est... oui, c'est aussi le caractère à la fois unique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'équivalent ailleurs dans le monde, d'éléments comme ça, d'espace, pour ce qui me concernerait, ça voulait dire un espace religieux, clos, ouais. Et bien, en même temps qui ait une valeur universelle, c'est-à-dire que la candidature, elle est bien... au patrimoine mondial. C'est-à-dire que on doit démontrer l'intérêt de ce patrimoine. Alors nous, on en est convaincus, évidemment. Mm-hmm. Nous, Finistériens, nous, Bretons, parce qu'on connaît ces lieux, la plupart, ou les plus prestigieux. Donc, mais il faut aussi démontrer à des Mexicains, des Indiens, des Japonais, des Norvégiens, enfin bref, des gens de l'ensemble des... Parce que c'est eux, le comité qui va, comment dirais-je, valider ou pas la candidature, qui l'évalue en tous les cas, ils viennent de tous les continents, etc. Donc il y a cette dimension universelle. Et donc il faut, à partir du moment où on aura défini ce que c'est un enclos paroissial, sa valeur à la fois unique et en même temps universelle, parce que on peut dire par exemple qu'un enclos paroissial, ça a un lien certes avec la question, une question religieuse, mais plus largement universelle, parce que on est aussi sur le lien avec la question, pour aller vite, hein, de la mort. Les enclos, ils étaient aussi des cimetières, en fait. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre d'entre eux dans lesquels il y a toujours un cimetière. D'autres ont déménagé, entre guillemets, ce cimetière. Au départ, les gens étaient enterrés dans les églises. Après, c'était aux abords des églises. Puis, plus récemment, au 19e ou au 20e, on a transféré ces... Donc, en tout cas, il y a un lien avec cette question-là qui, du coup, amène un formalisme particulier. C'est la représentation des influences artistiques, finalement, là, pour le coup, européennes. Le fait d'avoir au fin fond du pays de l'Andivisio des influences de Dürer sur un vitrail, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, en tout cas, l'UNESCO, il s'intéresse à... Ou en tout cas, il évalue cette dimension-là, en fait, la bonne intégrité. C'est-à-dire que si on a défini ce que c'est un enclos, il faut que chacun d'entre eux... dispose de ces éléments-là. Nous, on va essayer de montrer aussi que la particularité, c'est que c'est un bien en série, donc on en a un certain nombre sur un territoire, et voilà, que ça correspond à ces éléments de période historique particulière, que c'est unique, que c'est une valeur universelle.
Donc là, vous avez fait la demande, vous êtes en train de préciser pour savoir quels enclos vont être sélectionnés. Et donc ensuite, il y aura un avis du Conseil qui aura lieu quand, vous savez, c'est immédiatement ou il faut attendre une certaine période?
Alors en fait, on est vraiment aux prémices, donc on n'a même pas... comment dirais-je ? La procédure, si on peut parler de ça, en fait, en tout cas, la démarche de candidature, elle commence... d'abord au niveau national. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas encore à aller voir l'UNESCO, on n'a pas du tout pris de contact avec eux. Il faut d'abord, pour être qu'un site ou que plusieurs sites ou soient candidats au patrimoine mondial, en fait, il faut déjà être en fait, ce qu'on appelle inscrit sur la liste indicative au niveau national. Cette liste indicative, elle émane du ministère de la Culture. Donc en fait, le premier dossier de candidature, il va simplement être proposé au ministère de la Culture pour déjà valider la pertinence de la candidature auprès d'une commission particulière qui, au sein du ministère de la Culture, s'occupe de toutes les démarches au niveau français. Il y a actuellement, sur ce qu'on appelle la liste indicative, c'est-à-dire des sites qui sont en attente, il y a déjà une trentaine de sites, culturels ou naturels. Donc il faut déjà valider cette première étape, et puis ensuite constituer la demande, donc c'est-à-dire effectivement la première année, démontrer la valeur universelle, vraisemblablement la deuxième année, travailler sur tout ce qui concerne en fait ce qu'on appelle la zone tampon, donc c'est-à-dire l'intégration des sites dans leur environnement, dans une dimension de bonne conservation, de valorisation, etc. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour les sites très urbains, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi bien intégrer les sites. Et la troisième année, on travaille sur ce qu'on appelle le plan de gestion, c'est-à-dire la bonne conservation sur du long terme des sites. Et puis éventuellement ce qu'on appelle les actions culturelles, donc ça veut dire effectivement des actions de sensibilisation du public sur ce patrimoine-là. Bon, pour ce qui concerne les enclos paroissiaux, il y a déjà pas mal de choses qui existent, il y a des circuits, des choses de valorisation et des visites, etc. Mais on peut en imaginer d'autres. Donc, une fois que ces différentes étapes au niveau national et pour le ministère de la Culture sont franchies, l'État tous les ans, choisit dans sa liste de candidats sur la liste indicative, en fait, parmi donc aujourd'hui la trentaine de sites, en choisit un qu'il présente à l'UNESCO. En fait. Donc après, la candidature, elle échappe aux porteurs du projet, donc à nous, conseil départemental du Finistère. Dans 2-3 ans, au mieux, 3-4 ans peut-être, effectivement, il y aura la candidature qui pourrait éventuellement, si tout va bien, être portée par la France à l'UNESCO, en fait. Okay. Et donc il y a déjà 3 ans d'évaluation, etc., de suivi avec le ministère de la Culture. Et après, eh bien, ce sont des membres de l'UNESCO, de ce qu'on appelle l'ICOMOS, entre guillemets, un peu comme des inspecteurs, un peu comme les inspecteurs du guide Michelin qui viennent un peu en incognito, évaluer un restaurant pour ou non donner les étoiles. En fait. Donc il y a ces membres de l'UNESCO qui viendraient dans le futur aussi rendre visite, voir, évaluer les biens et émettre aussi sans doute un rapport, etc. Mais on doit constituer après là. Voilà, les choses sont un peu lointaines, mais ça prend en tous les cas pour. Ça a pris sur des candidatures récentes d'autres sites qui avaient eu un parcours un peu sans faute. Ça avait pris au moins 6 ans. Donc c'est une démarche qui est quand même relativement longue.